71. À bord de la Sèvres, mai 1881. Yves, qui aura 30 ans bientôt, me prie de lui rapporter de terre un cahier relié pour commencer à y écrire ses impressions, à ma manière. Il regrette même de ne plus se rappeler assez les dates et les choses passées pour reconstituer un journal rétrospectif de sa vie. Son intelligence s'ouvre à une foule de conceptions nouvelles. Il se façonne sur moi, c'est incontestable, et se complique peut-être un peu plus qu'il ne faudrait. Mais notre intimité amène un autre résultat très inattendu. C'est que je me simplifie beaucoup à son contact. Moi aussi je change, et presque autant que lui. Brest, juin 1881. À 6 heures, le soir de la Saint-Jean, sur l'impériale d'un omnibus de campagne, je revenais avec Yves du Pardon de Plougastel. Notre Sèvres avait été en mai jusqu'à Alger, et nous sentions mieux, par contraste, le charme particulier du pays breton. Les chevaux s'en allaient ventre à terre, tout en rubanés, ayant sur la tête des bannières et des rameaux verts. Dans l'intérieur, on chantait, et dessus, près de nous, 3 matelots gris dansaient, bonnets sur l'oreille, des fleurs aux boutonnières, des rubans, des trompettes, et, par ironie pour les gens à vue faible, portant des lorgnons bleus. 3 jeunes hommes à la tournure délurée, à la tête intelligente, qui couraient leur bordée de départ au moment de s'en aller en Chine. Des bourgeois se fussent cassés le cou. Eux, qui avaient tant bu, tenaient ferme, sautaient comme des cabris, et la voiture s'en allait grand train, de droite et de gauche, dans les ornières, menée par un cocher ivre. À Plougastel, nous avions trouvé le bruit d'une fête de village, des chevaux de bois, une naine, une géante, la famille Mouton qui se désosse, et des jeux et des cabarets. Et puis, sur une place isolée, entourée de chaumières grises, les bignoux bretons sonnaient un air rapide et monotone du temps passé, des gens en vieux costumes dansaient à cette musique centenaire. Hommes et femmes, se tenant par la main, couraient dans le vent comme des fous, en longues files frénétiques. Cela, c'était la vieille Bretagne, donnant encore sa note sauvage, même aux portes de Brest, au milieu de ce tapage de foire. D'abord, nous essayons, Yves et moi, de calmer ces 3 matelots et de les faire s'asseoir. Et puis, nous trouvons drôle de nous voir, nous, leur faire ce sermon. Après tout, dis-je à Yves, nous en avons bien fait d'autres. Ah oui, bien sûr, répondit-il avec conviction. Et nous nous contentons de tendre nos bras entre les montants de fer pour les empêcher de tomber. Et les routes, les villages, sont tout remplis de gens qui reviennent de ce pardon, et tous ces gens s'ébahissent de voir passer cet équipage de fous et ces 3 matelots dansant sur cette voiture. La splendeur de juin jette sur toute cette Bretagne son charme et sa vie. La brise est douce et tiède sous le ciel gris. Les hauts foins, tout pleins de fleurs roses, les arbres d'un vert d'émeraude remplis de hannetons. Et les 3 matelots dansent toujours en chantant, et à chaque couplet, les autres dans l'intérieur reprennent le refrain « Il est parti, vent arrière, il reviendra en louvoyant ». Les vitres de notre voiture en vibrent, et cet air, toujours le même, répété 2 lieues durant, est un très vieil air de France, si ancien et si jeune, d'une gaieté si franche et de si bon aloi, qu'au bout d'un moment, nous aussi nous le chantons avec eux. Comme elle est belle et rajeunie, la Bretagne, et verte au soleil de juin. Nous autres, pauvres gens de la mer, quand nous trouvons le printemps sur notre route, nous en jouissons plus que les autres, à cause de notre vie séquestrée dans les couvents de planches. Il y avait 8 ans qu'Yves n'avait vu son printemps breton. Et nous avions été longtemps fatigués tous deux par l'hiver ou par cet éternel été qui resplendit ailleurs, sur la grande mer bleue, et nous nous laissions enivrer par ces foins verts, par ces senteurs douces, par tout ce charme de juin que les mots ne peuvent dire. Il y a encore de beaux jours dans la vie, de belles heures de jeunesse et d'oubli. Au diable toutes les rêveries mélancoliques, tous les songes maladifs des tristes poètes. Il fait bon courir, la poitrine au vent, en compagnie des plus joyeux d'entre les enfants du peuple. La santé et la jeunesse, c'est tout ce qu'il y a de vrai sur terre, avec la gaieté simple et brutale, et les chants des matelots. Et nous allions toujours très vite et de travers, zigzaguant sur la route au milieu de tout ce monde, entre les aubépines très hautes, formant deux haies vertes, et sous la voûte touffue des arbres. Bientôt parut Brest, avec son grand air solennel, ses grands remparts de granit, ses grandes murailles grises, où poussaient aussi des herbes et des digitales roses. Elle était comme enivrée, cette ville triste, d'avoir par hasard un vrai jour d'été, une soirée pure et tiède. Elle était pleine de bruit, de mouvement et de monde, de coiffes blanches et de marins qui chantaient. 72. 5 juillet 1881. En mer. Nous revenons de la Manche. La Sèvre marche tout doucement dans une brume épaisse, poussant de minute en minute un coup de sifflet qui résonne comme un appel de détresse sous ce suaire humide qui nous enveloppe. Les solitudes grises de la mer sont autour de nous et nous en avons le sentiment sans les voir. Il semble que nous traînions avec nous de longs voiles de ténèbres. On voudrait les percer, on est comme oppressé de se sentir depuis tant d'heures enfermé là-dessous. Et on songe que ce rideau est immense, infini, qu'on pourrait faire des lieux et des lieux sans vue, dans le même gris blafard, dans la même atmosphère d'eau. Et la houle passe, lente, molle, régulière, patiente, exaspérante. C'est comme de grands dos polis et luisants qui s'enflent, donnent leur coup d'épaule, vous soulèvent et vous laissent retomber. Brusquement, le soir, il se fait une éclaircie. Et une chose noire se dresse tout près de nous, surprenante, inattendue, comme un haut fantôme surgissant de la mer. Armène Du, les pierres noires, dit notre vieux pilote breton. Et en même temps, partout la voile se déchire. Ouessant apparaît. Toutes ces roches sombres, tous ces écueils se dessinent en grisailles obscures, battues par de hautes gerbes d'écume blanche, sous un ciel qui paraît lourd comme un globe de plomb. Il n'est que temps de redresser la route, et vite, pendant l'éclaircie, la Sèvre met le cap sur Brest, ne sifflant plus, se hâtant avec un grand espoir d'arriver. Mais le rideau lentement se referme et retombe. On n'y voit plus, la nuit vient, il faut remettre le cap au large. Et 3 jours se passent ainsi, sans plus rien voir, les yeux se fatiguent à veiller. C'est ma dernière traversée sur cette Sèvre, que je dois quitter aussitôt notre retour à Brest. Yves, avec ses idées de breton, voit quelque chose de pas naturel dans cette brume, qui persiste en plein été comme pour retarder mon départ. Cela lui semble un avertissement et un mauvais présage. 73. Brest, le 9 juillet 1881. Nous venons d'arriver tout de même, et c'est mon dernier jour de garde à bord. Je débarque demain. Nous sommes dans ce fond du port de Brest, où notre Sèvre revient de temps en temps s'immobiliser entre 2 grands murs. De hautes constructions mornes nous surplombent. Autour de nous, des assises de roches primitives, portent des remparts, des chemins de ronde, tout un lourd échafaudage de granit, suant la tristesse et l'humidité. Je connais par cœur toutes ces choses. Comme c'est en juillet, il y a des digitales, des touffes de silène qui s'accrochent çà et là aux pierres grises. Ces plantes roses des murs, c'est la note de l'été dans ce Brest sans soleil. J'ai pourtant une sorte de joie de partir. Cette Bretagne me cause toujours, malgré tout, une oppression mélancolique. Je le sens maintenant, et quand je songe au nouveau, à l'inconnu qui m'attend, il me semble que je vais me réveiller au sortir d'une espèce de nuit. Où m'enverra-t-on? Qui sait? Comment s'appellera ce coin de terre où il faudra m'acclimater demain? Sans doute quelque pays de soleil, où je deviendrai un autre moi avec des sens différents et où j'oublierai, hélas, les choses aimées ailleurs. Mais mon pauvre Yves et mon petit Pierre, je souffre de les quitter tous deux. Pauvre Yves, qui s'est souvent fait traiter en enfant gâté et capricieux, c'est lui à présent, à l'heure de mon départ, qui m'entoure de 1000 petites prévenances, presque enfantines, ne sachant plus comment s'y prendre, pour me montrer assez son affection. Et cette manière d'être a plus de charme chez lui, parce qu'elle n'est pas dans sa nature habituelle. ce temps que nous venons de passer ensemble, dans une intimité fraternelle de chaque jour, n'a pas été exempt d'orages entre nous. Il mérite toujours un peu, malheureusement, ces notes passées d'indisciplinés et d'indomptables. Tout va bien mieux cependant, et si j'avais pu le garder près de moi, je l'aurais sauvé. Après dîner, nous montons sur le pont pour notre promenade habituelle du soir. Je dis une dernière fois, « Yves, fais-moi une cigarette. » Et nous commençons nos 100 pas réguliers sur ces planches de la Sèvre. Là, nous connaissons par cœur tous les petits trous où l'eau s'amasse, tous les taquets où l'on se prend les pieds, toutes les boucles où l'on trébuche. Le ciel est voilé sur notre dernière promenade, la lune embrumée et l'air humide. Dans le lointain, du côté de Recouvrance, toujours ces éternels chants de matelots. Nous causons de beaucoup de choses. Je fais à Yves beaucoup de recommandations. Lui, très soumis, répond par beaucoup de promesses, et il est fort tard quand il me quitte pour aller dormir dans son hamac. À midi le lendemain, mes malles à peine fermées, mes visites pas faites, je suis à la gare avec Yves et les amis du carré qui me reconduisent. Je serre la main à tous, je crois même que je les embrasse, et me voilà parti. Un peu avant la nuit, j'arrive à Toulven, où j'ai voulu m'arrêter 2 heures pour leur faire mes adieux. Comme c'est vert et fleuri ce Toulven, cette région fraîche et ombreuse, la plus exquise de Bretagne. Là, on m'attendait pour couper les cheveux du petit Pierre. La pensée qu'on pût me confier une pareille besogne ne me serait jamais venue. On me dit qu'il n'y avait que moi pour le faire rester tranquille. La semaine passée, on avait mandé le barbier de Toulven, et petit Pierre avait tellement fait le diable que les ciseaux avaient entamé d'abord ses petites oreilles. Il avait fallu y renoncer. J'essayais tout de même pour leur faire plaisir, ayant une envie de rire très grande. Puis, quand ce fut fini, l'idée me vint de garder une de ces petites mèches brunes que j'avais coupées, et je l'emportai, étonné de tant y tenir. 74. Lettre d'Yves. À bord de la Sèvre, Lisbonne, 1er août 1881. Cher frère, je vous réponds une petite lettre le jour même que je reçois la vôtre. Je vous écris bien à courir, et encore je profite de l'heure du déjeuner, et je suis sur le râtelier du Grand Mât. Nous sommes entrés en relâche à Lisbonne hier au soir. Chers frères, nous avons eu tout à fait un mauvais temps cette fois. Nous avons perdu nos phoques, l'artimon de cap et la baleinière. Je vous fais savoir aussi que dans les grands coups de roulis, mon sac et mon armoire sont allés se promener, et tous mes effets aussi. J'ai à peu près pour 100 francs de perte dans toutes ces affaires-là. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'avais fait de ma journée dimanche, il y a 15 jours. Mais, mon bon frère, je suis resté tranquillement à bord, à finir de lire le Capitaine Fracasse. Ainsi, depuis votre départ, je n'ai été à terre que dimanche dernier. Et j'étais tranquille, parce que d'abord, j'avais tout envoyé l'argent de mon mois à la maison. J'avais touché 69 francs, et j'en ai envoyé 65 à ma femme. J'ai eu des nouvelles de Toulven, et ils sont tous bien. Le petit Pierre est très dégourdi, et il sait très bien courir à présent. Seulement, il est un peu mauvais quand il fait sa petite tête de goéland, comme moi, vous savez. D'après ce que ma femme me dit sur la lettre, il chavire tout chez nous. La maçonnerie de notre maison est déjà montée à plus de 2 mètres de terre. Je serais bien heureux qu'elle soit tout à fait finie, et surtout de vous voir installé dans votre petite chambre. Chers frères, vous me dites de penser à vous souvent, mais je vous jure qu'il ne se passe pas d'heure sans que je manque d'y penser, et même plusieurs fois par heure. Du reste, maintenant, vous comprenez, je n'ai plus personne avec qui causer le soir, et je n'ai pas toujours des cigarettes. Je ne puis vous dire le jour de notre partance, mais je vous prie de m'écrire à Oran. On dit que nous serons payés à Oran pour pouvoir aller à terre et acheter du tabac. Je termine, cher frère, en vous embrassant de tout mon cœur. Votre frère tout dévoué qui vous aime, à vous pour la vie, Yves Kermadec. P.S. Si j'ai beaucoup d'argent à Oran, je ferai une très grande provision de tabac, et surtout pour vous, de celui qui est pareil au tabac des Turcs et que vous aimez bien fumer. Le major m'a remis pour vous une serviette, la dernière qui vous avait servi à table. Je l'ai lavée, ça fait que je l'ai un peu déchirée. Quant au cahier que vous m'aviez donné pour écrire mes histoires, il a été aussi tout à fait écrasé par le coup de mer. Alors j'ai tout laissé de côté. Chers frères, je vous embrasse encore de tout mon cœur. Yves Kermadec. P.S. À bord, c'est toujours la même chose, et le commandant n'a pas changé ses habitudes de crier pour la propreté du pont. Il y a eu une grande dispute entre lui et le lieutenant, toujours au sujet du cacatois, vous savez, mais ils se sont très bien arrangés après. J'ai aussi à vous dire que dans 7 ou 8 mois, je pense encore avoir un autre petit enfant. Une chose pourtant qui ne me fait pas bien plaisir, car c'est un peu trop vite. Votre frère, Yves. 75. C'est en Orient maintenant que viennent me trouver ces petites lettres d'Yves. Elles m'y apportent, dans leur simplicité, les senteurs déjà lointaines du pays breton. Ils s'éloignent beaucoup, mes souvenirs de Bretagne. Déjà, je les revois passer comme à travers des voiles de rêve. Les écueils connus de là-bas, les feux de la côte, la pointe du Finistère avec ses grandes roches sombres, et les approches dangereuses d'Ouessant les soirs d'hiver, et le vent d'ouest qui courait sous le ciel morne à la tombée des nuits de décembre. D'ici, tout cela semble la vision d'un pays noir. La pauvre petite chaumière de Toulven. Elle était bien humble, bien perdue au bord du sentier breton. Mais c'était la région des grands bois de hêtre, des rochers gris, des lichens et des mousses, des vieilles chapelles de granit et des hauts foins semés de fleurs roses. Ici, du sable et des minarets blancs sous une voûte très bleue, et puis le soleil, l'enchanteur éternel. 76. Lettre d'Yves. Brest le 10 septembre 1881. Mon bon frère, je vous fais savoir le désarmement de notre Sèvre. Nous l'avons remise hier à la direction, et ma foi, je n'en suis pas trop mécontent. Je compte rester quelque temps à terre au quartier. Aussi, comme notre petite maison n'est pas très avancée, vous pensez bien, ma femme est venue s'installer auprès de moi à Brest jusqu'à ce qu'elle soit finie. Je pense que vous trouverez, chers frères, que nous avons bien fait. Cette fois, nous avons loué presque dans la campagne, à Recouvrance, du côté de Pontagnou. Chers frères, je vous dirai que le petit Pierre a été bien malade par les coliques pour avoir mangé trop de luze dans les bois ce dimanche dernier que nous avons été à Toulven. Mais cela lui a passé. Il devient tout à fait mignon, et je reste des heures à jouer avec lui. Le soir, nous allons nous promener tous les trois. Nous ne sortons plus jamais qu'ensemble. Et puis, quand l'un rentre, les deux autres rentrent aussi. Chers frères, si vous pouviez revenir à Brest, il ne me manquerait plus rien. Vous me verriez maintenant comme je suis, vous seriez tout à fait content, car je n'étais jamais resté aussi tranquille. Je voudrais encore embarquer avec vous, mon bon frère, et tomber sur quelques bateaux qui iraient là-bas du côté du Levant vous retrouver. Et pourtant, je vous promets que la vie que je fais maintenant, je voudrais bien la continuer. Mais cela n'est pas possible, car je suis trop heureux. Je termine en vous embrassant de tout mon cœur, et le petit Pierre vous envoie ses respects. Ma femme et tous mes parents à Toulven vous font bien des compliments. Ils ont très hâte de vous voir, et je vous promets que moi aussi. Votre frère, Yves Kermadec. 77. Toulven, octobre 1881. Encore la pâle Bretagne au soleil d'automne. Encore les vieux sentiers bretons, les hêtres et les bruyères. Je croyais avoir dit adieu à ce pays pour longtemps, et je le retrouve avec une singulière mélancolie. Mon retour a été brusque, inattendu, comme le sont souvent nos retours ou nos départs de marins. Une belle journée d'octobre, un tiède soleil, une vapeur blanche et légère répandue comme un voile sur la campagne. C'est partout cette grande tranquillité qui est particulière aux derniers beaux jours. Déjà des senteurs d'humidité et de feuilles tombées, déjà un sentiment d'automne répandu dans l'air. Je me retrouve dans les bois connus de Trémelé, sur la hauteur d'où l'on domine tout le pays de Toulven. À mes pieds, l'étang, immobile sous cette vapeur qui plane, et au loin, des horizons tout boisés, comme ils devaient l'être aux temps anciens de la Gaule. Et ceux qui sont là près de moi, assis parmi les 1000 petites fleurs de la bruyère, ce sont mes amis de Bretagne, mon frère Yves et le petit Pierre, son fils. C'est un peu mon pays maintenant, ce Toulven. il y a un très petit nombre d'années, il m'était étranger. Et Yves, auquel pourtant je donnais déjà le nom de frère, comptait à peine pour moi. Les aspects de la vie changent, tout arrive, se transforme et passe. Il y en a tant de ces bruyères que dans les lointains on dirait des tapis roses. Les scabieuses tardives sont encore fleuries, tout en haut de la tige longue. Et les premières grandes ondées qui ont passé ont déjà semé la terre de feuilles mortes. C'était vrai ce qu'Yves m'avait écrit. Il était devenu très sage. On venait de l'embarquer sur un des vaisseaux en rade de Brest, ce qui semblait lui assurer un séjour de 2 ans dans son pays. Marie, sa femme, s'était installée près de lui dans le faubourg de Recouvrance, en attendant cette petite maison de Toulven, qui montait de terre lentement, avec de gros murs bien épais et bien solides, à la mode d'autrefois. Elle avait accueilli mon retour imprévu comme une bénédiction du ciel, car ma présence à Brest auprès d'eux allait la rassurer beaucoup. Yves, devenu très sage, et comme cela tout de suite, sans qu'on sût quelles circonstances décisives l'avaient ainsi changé, on avait peine à y croire. Et Marie me confirmait ce bonheur très timidement. Elle en parlait comme de ces choses instables, fugitives, qu'on a peur de faire s'envoler rien qu'en les exprimant par des mots.